Alors c'est vrai que cette thématique de l'eau, aujourd'hui, elle est très présente dans l'actualité parce qu'on se rend bien compte que c'est devenu un sujet de société, un problème réel, collectif. Et d'une certaine façon, ça l'a toujours été parce que moi, j'ai été élevé en majeure partie par mes grands-parents. Et cette question de l'eau, elle était importante parce qu'ils entretenaient des puits et des points d'eau. Ils avaient un rapport avec la terre, puis ils étaient agriculteurs et journaliers. Et ils avaient ce rapport à la terre. Alors, ils étaient déjà âgés, bien sûr. Ça s'était, on va dire, replié dans un périmètre qui était le tour de maison, mais en tout cas dans leur vie active, il y avait un rapport à la terre qui était plus lointaine, un rapport à la montagne aussi. Et ces questions de l'eau comme capital essentiel et collectif à gérer, à entretenir, c'était très très important. Et c'est quelque chose qui a étonnamment pas franchi les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus tout à fait ce rapport-là à l'eau comme une évidence, comme quelque chose qui est là, pas qu'un élément de paysage. Aujourd'hui, on pense que c'est un élément de paysage et que c'est quelque chose qui est là comme un papier peint ou comme un instrument de loisir. Ça ne l'a jamais été avant. Ça n'a jamais été un instrument de loisir. Ni même quelque chose qui relevait, on va dire, de l'agrément. C'était quelque chose comme la pierre. La pierre et l'eau, c'était les deux piliers du monde visible et invisible. Mon grand-père paternel, que j'ai peu connu, était un meunier. Et il avait un moulin en plaine, ce qu'on appelait « imulini imbasu ». Donc les moulins qui étaient très très bas. Alors qu'en fait, normalement, un moulin, pour fonctionner vraiment, doit être un petit peu en altitude. Et cette question de l'eau, elle était très très importante pour les fameux moulins imbasu, parce que cette eau se tarissait à un moment donné. Et il y a eu toute une époque avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, où la gestion du réseau de l'eau était très très importante. Par exemple, si on prend le cadastre napoléonien et qu'on regarde la plaine de Porto Vecchio, il y a tout un espace entre Porto Vecchio et Figari. Il y a une gigantesque plaine. Ça s'appelle la zone des moulins. Et sur le cadastre napoléonien, c'est assez beau à regarder parce que tout est tracé en bleu. Et une sorte de labyrinthe bleu comme ça, qui est comme, je ne sais pas, un réseau de veines sous la peau de papier de la carte. Et tout ça, c'était très très entretenu, c'est-à-dire qu'il y a une vraie géométrie de l'eau, la disposition des moulins, la disposition des fontaines. On voit que tout ça était fait pour maîtriser l'espace dans lequel on doit se déplacer. Et il ne peut pas y avoir de zone de désert, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont on a une vague idée quand on se promène, parce qu'on voit ce qu'il reste. On voit des ruines de moulins, on voit des ruines de canaux, mais cette réalité pleine, vivante, elle a disparu. Aujourd'hui, c'est difficile de voir vraiment à quoi ça pouvait ressembler. Surtout sur une idée qui est très très importante, c'est l'idée de luxuriance. C'est-à-dire que les villages étaient vraiment luxuriants. Il y avait, c'était pas des jardins à la française, c'était des jardins, bon certes, qui étaient organisés avec une gestion de l'eau. Alors moi, je n'ai connu que la Somivac, mais avant ça, il y avait une gestion de l'eau qui était collective avec des réseaux de canaux qu'il fallait entretenir depuis la prise jusqu'à l'arrivée. Et les gens faisaient ça de la même façon qu'ils entretenaient des chemins ou des moulins. J'ai vu des gens sauter des murs ou marcher, faire tomber des pierres ou en déceler une, et puis remettre ça dans la foulée parce que c'était important de remettre les choses. Aujourd'hui, bon, c'est une pensée qu'on n'a plus. C'est une pensée de ce qui relève du commun qu'on n'a plus. C'est dévolu au pouvoir public de réparer, et si ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. La mémoire, il y a cette très belle fontaine perdue aujourd'hui dans le massif de l'Hospedale et qui s'appelle Avuntana di Donna Warmida, la fontaine de la femme vermeille. C'est
Oh oui, c'est
extraordinaire.
extraordinaire, oui.
C'est extraordinaire, mais ça m'a beaucoup nourri pour écrire, parce que il y a un livre perdu derrière ces noms de lieux, ces noms de fontaines, de rivières. Il y a un livre qu'on arrive de façon très fragmentaire à lire. On ne sait pas pourquoi. Ces lieux, à un moment donné, ont été nommés de cette façon-là. Mais ça dit quand même une
Oui, ça dit
pensée.
beaucoup, oui.
Ça dit une pensée collective, et puis une pensée capable de nommer le monde, de le nommer de façon signifiante et belle des fois. Et
Poétique.
ça n'est pas rien. Alors effectivement, ça fait partie, et la société corse, elle est prise entre ces deux choses, hein, la mémoire et l'oubli. Ces deux choses qui sont très très importantes. Il y avait voilà, des bribes d'histoire que j'ai entendues qui concernent par exemple les Matsiri. Chez moi, ils se donnaient rendez-vous dans le massif de l'Hospedale et à une sorte de source qui s'appelait Alboka, donc je ne saurais pas situer, mais en tout cas c'était dit comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des sortes de réunions nocturnes à des points d'eau. Il y avait ces histoires qu'on racontait aux enfants, et ça c'est vraiment lié à un monde rural. Si par exemple un enfant trouve un nid de merle dans un talus, si il confesse le nom, l'endroit précis où il a trouvé ce nid auprès du feu, ce sont les fourmis rouges qui vont manger les œufs. Et s'il le dit à l'eau, c'est le serpent qui va manger les œufs. Alors ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça dit vraiment un rapport presque mythique aux choses. Le serpent, c'est un
Symbole.
animal d'eau.
Oui.
La fourmi rouge, elle a partie liée avec le feu dans son foisonnement, ce crépitement des fois qu'on peut entendre si on tend l'oreille. Et il y avait cette pensée analogique de l'enfance dans ces histoires-là. Et je trouve que c'est très très important parce que ça va au-delà du poétique. D'ailleurs, aujourd'hui, il paraît que la Corse est en processus de sahélisation. C'est comme ça que disent les géographes, ou en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Mais beaucoup de gens disent que en fait l'eau disparaît. Et quand ils le disent en Corse, il y a une expression, l'acqua soufala. Et en fait, si on le traduit directement, c'est l'eau s'effondre. C'est-à-dire que soufala, ça se dit aussi pour un mur ou une maison. C'est-à-dire pour une construction qui s'effondre sur elle-même. Et l'eau fait de même en disparaissant sous la terre. Elle s'effondre. Et ça dit quelque chose d'une construction du monde. Ça dit quelque chose d'un élément fondamental de l'univers.